deuxième parcours qui nous est proposé en ce temps de carême, puisque vous vous souvenez, trois dimanches successifs dans cette année, la première année liturgique, nous lisons des chapitres entiers de Saint Jean, la semaine dernière, la Samaritaine, aujourd'hui l'aveugle-né, dimanche prochain Lazare et son retour à la vie. Et d'une certaine façon, on pourrait faire un rapprochement avec la parole que Jésus prononçait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il rencontre la Samaritaine sur le chemin et puis il ouvre les yeux de l'aveugle à la vérité et puis voilà, il manifeste par le retour à la vie de Lazare qu'il vient nous apporter la vie éternelle et la résurrection. J'aime beaucoup personnellement ce passage de l'aveugle-né pour différentes raisons. Une première raison, c'est que c'est un texte clé pour comprendre comment Jésus volatilise vraiment des interprétations théologiques de l'Ancien Testament sur le rapport entre notre vie et puis le mal qu'il y a dans le monde. Et si vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, souvent on nous dit que Dieu a envoyé tel ou tel châtiment parce que précisément son peuple s'était détourné. Et on finit par avoir une vision de Dieu qui est un véritable tyran vis-à-vis de son peuple et un juge implacable qui ne cesse de les châtier. Lorsque les disciples posent la question « Mais qui a péché dans l'histoire pour qu'il soit comme ça, cet aveugle de naissance ?» Parce qu'on va bien insister dans le récit que c'est un aveugle de naissance, un aveugle né, disent les parents. Et ce n'est pas l'un des aveugles que Jésus a guéri. Non, non, un aveugle de naissance, vraiment. Il y a quelque chose que Dieu a raté au point de départ. Et voilà. C'est pour la raison pour laquelle Jésus va poser un geste qui ressemble un peu à une nouvelle création. Il va prendre de sa salive, il va la mêler à la boue de la terre, et on insiste bien plusieurs fois sur la boue, vous avez remarqué, et il va enduire les yeux de l'aveugle avec cette boue. Et ça ne va pas sans nous rappeler la façon dont Dieu a façonné l'homme dans le récit de la Genèse en prenant de la glaise du sol et en insufflant une haleine divine. Donc c'est un geste de nouvelle création que Jésus accomplit et il vient volatiliser, je le disais, mais j'avais bifurqué sur un autre aspect, il vient volatiliser les interprétations fausses de l'Ancien Testament. Qui a péché, lui ou ses parents? Ni lui ni ses parents, répond Jésus. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on aurait péché. Pourtant, Jésus ne va pas forcément dissocier totalement la question du mal et de l'homme dans son rapport au mal. En effet, vous vous souvenez qu'il y a des passages de l'Évangile, par exemple dans Saint Luc, où on invoque cette histoire des 18 personnes tuées par la tour de Siloé qui s'est écroulée, ou encore un meurtre que Pilate avait fait faire au niveau du temple, et donc des innocents frappés par le mal et mis à mort pour rien. Et Jésus avait dit que ça n'avait pas de rapport avec le péché. Non, non. Mais il avait ajouté, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. Donc il avait quand même maintenu un lien entre le mal dans le monde et la responsabilité de l'homme. Mais cette fois-ci, précisément, sa responsabilité, à savoir que nous pouvons librement nous convertir et ce faisant, nous luttons directement contre le mal dans le monde, nous ouvrons le chemin au bien et à l'amour. Alors ce texte de la guérison de l'aveugle-né est vraiment à mettre vraiment au compte de cette lumière que Jésus vient apporter qui fait que nous ne pouvons pas lire l'Ancien Testament en le mettant sur le même pied que le Nouveau. Il nous faut vraiment réinterpréter l'Ancien Testament à la lumière de ce que Jésus fait et de ce que Jésus dit. Et ici, évidemment, on a une catéchèse baptismale, puisqu'on nous dit que Jésus l'envoie se laver à la piscine de Siloé, qui signifie « envoyer », et qu'on nous a dit que Jésus est l'envoyé du Père. Et donc, il revient en étant guéri, il voit, et c'est une façon de parler, que le baptême vient ouvrir nos yeux à la vérité, et la vérité qu'est Jésus. Parce qu'à la fin du récit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? Qui est-il ? Tu le vois ? Tu le vois ?» Le baptême ouvre nos yeux en nous donnant la grâce de la foi pour voir Jésus, le Fils de Dieu. Oh, il y a beaucoup de choses dans ce chapitre qu'il nous faudrait regarder de plus près. La façon dont on entend les réseaux sociaux de l'époque, par exemple. Alors, il y a le canal des parents qui disent « Bah, demandez-lui donc, hein, il est assez grand pour se défendre. » Et puis, Saint Jean a réinterprété en disant « Mais à l'époque, on avait la peur déjà d'être jeté dehors de la synagogue, on persécutait déjà les chrétiens. » C'est pas sûr que Saint Jean ne rapporte pas à l'époque de Jésus ce qui a lieu à la fin du 1er siècle. Et puis il y a le canal des pharisiens qui raconte la façon dont ils se cramponnent à la loi de Moïse, comme des noyés se cramponneraient à des choses qui les enverraient dans le fond. Et puis il y a le canal des voisins et des connaissances qui disent « mais enfin c'est lui, c'est pas lui ». Et cet aveugle qui va être tout à fait clair dans ses réponses factuelles, en disant « c'est bien moi ». Et puis, plusieurs fois, comme ça, il va répondre en disant des choses très simples. On sent qu'il ne fait pas de surenchère et qu'il n'hésite pas non plus à dire la vérité. Pour lui, c'est tout à fait clair, si l'on peut dire, maintenant. Alors, il va finir par se déclarer disciple de Jésus, se faire exclure. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus va pouvoir lui dire, et c'est évidemment le final du récit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Jésus a attendu qu'il se fasse expulser. Il ne force pas les choses. Et la finale du récit, c'est pour mettre en vis-à-vis la façon dont on peut se fermer à la vérité divine ou au contraire s'y ouvrir. Les pharisiens ont préféré se cramponner à leur certitude et se fermer à Jésus, tandis que cet aveugle guéri s'ouvre pleinement à la divinité de Jésus et Jésus, lumière du monde qui vient nous éclairer. Combien de fois n'avons-nous pas nous-mêmes été dans l'action de grâce pour avoir reçu précisément le don de la foi en nous disant « mais enfin, si je n'avais pas la foi dans ce monde tel qu'il est, comment est-ce que je pourrais vivre au fond ? Comment je pourrais réagir ?» Et c'est un don extraordinaire que celui de la foi qui nous est faite. La foi en Jésus, lumière du monde, qui dira plus loin au chapitre 12, « Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. »